Les derniers jours de 2022 à l'Opéra d'Avignon vont être rythmés par la Sérénade, cet ouvrage composé par Sophie Gale sur un livret de Sophie Gay, une mise en scène signée Jean Lacornerie, et l'Orchestre National Avignon-Provence sera sous la baguette de sa directrice, Déborah Waldman. Déborah Waldman, on connaît votre passion pour les compositrices. L'année dernière, il y a eu ce disque autour de l'œuvre de Charlotte Sohi. Début de l'année, ce sera Louis Farenc que vous allez nous donner à découvrir. Et puis là, donc, cet ouvrage de Sophie Gale. Vous m'aviez dit une fois, bon, les compositrices, j'écoute beaucoup et je cherche la pépite. Est-ce qu'on peut dire que la Sérénade, c'est vraiment la seule et unique pépite de Sophie Gale?
Alors, en effet, c'est une pépite, mais c'est encore plus une pépite par la mise en scène, puisque la musique n'est qu'en 50% du spectacle. Il y a vraiment beaucoup de textes, il y a beaucoup de théâtres. Là où vous avez très bien contextualisé, Charlotte Sohi, c'est un vrai génie de la musique. Louis Farenc aussi, on peut le dire. Sophie Gale, je ne pourrais pas dire si c'est un génie. Néanmoins, ce spectacle vaut la peine d'être joué parce que c'est une pépite.
Au-delà de la mise en scène de Jean Lacornerie, simplement à l'écoute de la musique, qu'est-ce qui vous a séduite dans cette sérénade?
Plutôt cette énergie et ce patchwork. Le fait qu'elle évoque et elle convoque beaucoup des compositeurs au rendez-vous. Il y a Rossini, il y a Gluck, il y a Mozart, il y a vraiment une citation des Bach. Et donc l'idée était de montrer comment une compositrice de cette époque voyait ses pères et son passé, et quel message, parce qu'il y a aussi un message politique, un peu de, vraiment sociétal dans cet opéra, et comment elle voyait tout ça et comment elle le fait passer à travers la musique.
Jean Lacornerie, si on prend les protagonistes, Valère, Argante, Scapin, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment dans une sorte de pastiche de Molière?
Non, en fait, c'est une pièce de Jean-François Regnard. Le livret est basé sur une pièce de Jean-François Regnard, donc la fin du XVIIe siècle. Regnard était le grand successeur de Molière. On est vraiment dans le théâtre classique. Donc Sophie Gay, qui est la librettiste de la Sérénade, a repris cette pièce. À l'intérieur de la pièce, je dirais, elle l'a truffée, puisque c'est un peu de saison, d'air d'opéra. C'est-à-dire qu'on joue la pièce de Regnard, qui est une pièce en un acte, une petite pièce. Et à l'intérieur de ça, il y a des grands morceaux d'opéra, des grands duos, des trios, des sextuors. Enfin, du coup, elle fait rentrer cette petite pièce dans le monde de l'opéra. Et c'est ça qui est intéressant à voir. C'est comment cette musique transforme complètement la pièce. Mais on est effectivement face à des personnages que tout le monde connaît, Scapin, Valère, enfin c'est l'amoureux, il y a le père Griffon qui est radin et qui ne veut pas lâcher un sou, enfin voilà, on a vraiment des personnages qu'on retrouve qui viennent de Molière et que Molière avait lui-même pris dans la Commedia dell'arte, etc.
À la base de l'intrigue, il y a un homme assez âgé qui veut prendre pour épouse une femme beaucoup plus jeune qu'elle. On pense à l'école des femmes, par exemple, mais est-ce que, sans trop divulgâcher, comme on dit, disons, l'intrigue propose quelques originalités?
L'originalité, c'est que le sujet est musical. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour les besoins de l'intrigue, ce personnage, donc Griffon, fait donner une sérénade. Donc il est question de musique. Et c'est le point de départ, je crois, des deux auteurs de cet ouvrage, pour faire rentrer la musique et s'amuser avec la musique. Voilà. Puisque la musique, en fait, fait partie de l'intrigue, elle sert l'intrigue, sans divulgâcher, elle va permettre, en fait, le dénouement. Et à partir de là, il y a un jeu avec qu'est-ce que c'est que la musique, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que c'est pour danser, est-ce que c'est pour chanter, etc. etc. Et je pense que ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est qu'il y a un clin d'œil avec le public. Je pense que le public, comme aujourd'hui, connaissait plus ou moins la pièce, on ne sera pas surpris par l'histoire. Mais à partir de cette connaissance commune, elle joue avec toute une série de références musicales, et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver, parce que bien sûr, nos références musicales d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles du public du début du 19e.
Vous avez beaucoup travaillé avec Jacques Lassalle, qui est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Festival d'Avignon, dans la grande cour d'honneur, Don Juan, Médée, Andromaque. Alors évidemment, on avait des œuvres beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus tragiques que la Sérénade. En même temps, j'ai vu les photos de vos maquettes, j'ai retrouvé une forme d'épure qui m'a rappelé un peu le travail de Jacques Lassalle.
Ah ben ça fait très plaisir parce que, effectivement, Jacques Lassalle était mon maître, qui m'a d'ailleurs initié finalement au théâtre classique. C'est vraiment avec lui que j'ai travaillé là-dessus. Puis après, c'est vrai que je m'en suis un peu éloigné. Oui, en fait, l'idée, c'est que la pièce est assez simple et qu'on voulait en fait partir pratiquement de rien, partir de zéro, et que les spectateurs voient se construire progressivement le monde de l'opéra, qu'on fasse rentrer le spectateur dans la manière de construire un opéra. C'est un peu « let's make an opera », en fait.
Déborah Waldman, lors de notre dernier entretien, vous m'aviez avoué « je suis quelqu'un de très rythmique ». Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de la vivacité de l'ouvrage. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de la direction des musiciens, mais aussi des interprètes?
Alors, ça veut dire, pour nous, dégager une énergie, et que j'espère soit contagieuse au public. Mais au-delà de ça, dans l'écriture même, il y a des, ce qu'on appelle, nous, les batteries, les motu perpetuo, les mouvements perpétuels, et des choses comme ça qui nous entraînent à des, presque on dit, des trans. Là, c'est plus calqué sur les langages classiques. Donc, comme vous imaginez chez Mozart, par exemple, les secondes violons, qui font ça avec une basse qui ponctue et puis une mélodie, voilà, pour être très schématique. Chez Sophie Gale, on retrouve toutes ces façons de faire parce que justement, dans son écriture, il y a un grand savoir-faire. Moi, ce que je ne trouve pas justement dans cette œuvre, c'est sa personnalité à elle. Je trouve un grand savoir-faire d'orchestration, d'écriture, de même des inventions, mais je n'ai pas saisi encore sa personnalité à elle.
Comment on peut qualifier la formation qui va accompagner l'ouvrage, puisqu'on n'aura pas tout l'effectif de l'orchestre?
Oui, j'ai choisi pour cette œuvre prendre effectif réduit à niveau cordes. Ça veut dire juste 6 premiers violons qui s'y prêtent complètement, puisque cette orchestration ne porte pas des trompettes. Les timbales, ils jouent que dans l'ouverture. Donc il y a bois par deux, c'est très intimiste, très chambriste. Donc j'ai préféré avoir une espèce de pouvoir jouer avec les peu de musiciens que j'ai, entre guillemets, généreusement, à la place de dire tout le temps piano, piano. Piano.
On parle de la personnalité de Sophie Gale. Moi, je la sens justement dans l'énergie qu'elle fait circuler dans la musique. Quand on est metteur en scène, il y a des compositeurs qui ont une pensée musicale et qui se développent comme ça, et on essaye de trouver une traduction. Et puis, il y a des compositeurs qui ont un sens de l'énergie du théâtre. Et je suis sûr, là, qu'il y a ça. On trouve ça chez des grands compositeurs de théâtre comme Offenbach, c'est celui qui me vient à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Et ça, dans l'ouvrage, c'est là. Et donc, c'est ce qui donne beaucoup de joie, beaucoup de jeu dans cette musique.
Vous êtes spécialisé dans les auteurs, les compositeurs américains, et même les spectacles musicaux, les comédies musicales anglo-saxonnes, Bernstein, Rogers et Hammerstein. C'est vraiment dans leur ADN anglo-saxon. Vous avez apporté quelques gènes aux interprètes de ce spectacle qui va être donné en création. Donc c'est vraiment une prise de rôle à la fois pour les musiciens, mais aussi pour les interprètes.
Absolument. L'apport qui peut venir de la comédie musicale, c'est qu'en fait, nous travaillons avec un chorégraphe, qui est Raphaël Cotin. Et cette énergie dont je parlais, il faut lui trouver une forme, il faut lui trouver une traduction théâtrale. Et ça, ça passe par la chorégraphie. Et dans la comédie musicale, c'est un des éléments importants, c'est justement que les chanteurs dansent. Ce sont des comédiens chanteurs. La plupart d'entre eux sont très bons, des chanteurs qui sont très bons acteurs. Il y a aussi un rôle parmi eux qui était destiné à un comédien, ce qui est le rôle de Champagne, qui est un valet qui chante juste un air de Griserie. Voilà. Donc c'était destiné pas à être bien chanté. Donc c'est un comédien qui le fait, mais je lui ai donné une sorte de... J'ai un peu développé son rôle et il va servir un peu comme ça de guide pour le spectateur, une sorte de metteur en scène qui est présent, qui donne quelquefois un éclairage, une explication, qui arrête le spectacle, qui dit alors est-ce que vous avez reconnu ça? Voilà, des petites, une manière de trouver la connexion avec le spectateur.
Qu'est-ce que ça implique justement ce type de répertoire par rapport aux musiciens, Déborah? Puisque tout à l'heure vous m'aviez insisté, vous me disiez c'est une prise de rôle pour les chanteurs mais aussi pour les musiciens.
Bah, j'ai hâte de voir comment l'orchestre réagit, mais on a la chance qu'il y a beaucoup de références, donc c'est quand même une musique qui quelque part on s'y retrouve rapidement. En effet, ce qui dit Jean, que c'est très au service du drame. Donc des fois, il y a des enchaînements un peu « waouh ». Et c'est en effet, si on le pense de ce côté, ça commence à être plus cohérent que si on le pense que musicalement. Après, il faut quand même s'approprier cette musique, parce que personne ne l'a dans l'oreille et personne ne l'a jamais entendue, en fait, de notre génération. Et donc, il y a un temps d'assimilation et il y a un temps de maturation. Là, on est plutôt bien, on a beaucoup de temps. Comme ça, on peut vraiment la faire naître.
Dans le dossier de presse, il reproduit une critique de l'époque qui a été écrite par un homme, mais c'est d'un mépris inouï, quoi. Parce qu'en fait, ce que dit le critique, c'est qu'en fait, les seuls bons moments musicaux de l'ouvrage sont des moments qui n'ont pas été écrits par Sophie Gale. C'est quand même étonnant la manière dont elle était considérée à l'époque.
Ça doit être une histoire des genres, je veux dire, pas objectif. Ça doit être tout simplement des histoires d'un peu mépriser Sophie Gale.
Effectivement, parce que Manuel Garcia, compositeur qui a participé, qui a aidé, on ne sait pas très bien exactement quelle est sa part dans l'écriture de l'ouvrage. Probablement, il était là aussi, comme il était chanteur lui-même, c'est puis père de chanteuse extraordinaire, il est peut-être là aussi comme conseiller pour l'écriture vocale. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont partagé les droits d'auteur, mais que c'est elle qui avait la majorité des droits, donc c'est quand même elle qui a fait l'essentiel de la partition. Après, on a affaire à la misogynie permanente et peut-être encore contemporaine, qui consiste à dire qu'une femme ne peut pas écrire une partition aussi géniale que celle d'un homme. Voilà.
Dans les maquettes que j'ai pu voir, il y a une phrase qui revient comme leitmotiv, l'amour doit décider des choix.
Oui, bah c'est une des phrases de l'ouvrage. C'est sans doute la phrase qui raconte la pièce. Je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles ils ont choisi cette pièce, c'est que Sophie Guy, elle-même, a eu une vie de femme assez mouvementée. Et elle a commencé par être mariée très jeune à un vieux monsieur qui était helléniste. Et que cette histoire de mariage arrangé, finalement, elle l'a connue. Et qu'après, elle a fait le choix justement de divorcer, ce qui est quand même pas rien à l'époque, et de vivre avec différents maris. Elle a eu 4 fils de 4 maris différents quand même. Et ce qui prouve sa liberté de choix. Voilà. Donc je crois que c'est bien de l'affirmer.
Ibra Beltman, par rapport à votre travail de défrichage vis-à-vis des compositrices, ce que vous allez vivre dans quelques jours à la toute fin de l'année, est-ce que ça constitue une forme, on va dire, presque d'achèvement ?
Oui, c'est un autre pas parmi ces schémas, de défricher, d'exhumer les pièces des compositrices et puis de les rendre visibles et donner envie au public de les faire, l'écouter et aux artistes de les faire pour que ça rentre dans les répertoires si ça a son lieu.
Une dernière question, Jean Lacornerie, là je vais couper un peu les cheveux en quatre, mais là derrière moi j'ai un morceau de décor, il y a des cercles et des triangles, il y a des symboles maçonniques dans la sérénade.
Non, je n'y avais pas du tout pensé, c'est maintenant que vous me le dites, je le vois aussi, mais c'est parce que c'est des échelles, si on change l'angle, on verra moins les triangles. La dimension spirituelle n'est pas là, c'est vraiment une comédie. Il y a une dimension politique dans le sens d'une revendication de liberté pour les femmes, mais je ne vois pas de dimension spirituelle. Non.
La belle représentation.
Merci beaucoup.